Voilà. Alors, tous ces dimanches, on voit ce qu'est la parole de Dieu. On a vu la semaine dernière ce qu'elle pouvait nous apporter, cette parole. On a vu que quand l'apôtre Paul avait quelque chose à expliquer aux Corinthiens par rapport à l'idolâtrie, eh ben, il s'était servi des exemples qu'il trouvait dans l'Ancien Testament pour expliquer ce qu'il avait expliqué. Et la parole de Dieu, et là, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, l'enfant de Dieu soit équipé, propre à toute bonne œuvre, pour l'écrivait à Timothée. Et l'apôtre Paul, quand il écrivait dans ses lettres, c'était pour répondre à des problèmes concrets qu'avaient ses auditeurs. Et à ce moment-là, il y avait un problème, on avait vu ça la dernière fois, la semaine dernière, avec les idoles auxquelles on offrait des sacrifices, et puis la viande était partagée, et donc on avait l'assemblée qui était invitée à venir, enfin tout le voisinage, les voisins, les amis, quand quelqu'un offrait un gros animal comme ça faisait beaucoup de viande, on la conservait difficilement à l'époque, et donc la viande était offerte, et après. Les amis, les voisins étaient invités à venir consommer cette viande-là. Et les chrétiens de l'époque avaient un cas de conscience, est-ce que je dois aller prendre de cette viande ou est-ce que je ne dois pas aller en prendre? Et donc l'apôtre a donné tout un enseignement concret, des choses concrètes, des problèmes réels qu'avaient les gens à cette époque-là. Et il essayait de leur donner des solutions concrètes et il s'inspirait de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament, à ce moment-là. Pour donner son enseignement. Alors, on va continuer un petit peu dans la même lignée. On va maintenant aller voir une autre lettre qu'il a écrite aux personnes qui étaient à Rome, l'épître de Paul aux Romains. Alors, dans quel contexte on est là? L'apôtre Paul ne connaît pas l'église de Rome, mais il veut s'y rendre. Et il se dit, je vais écrire une lettre. Enfin, il ne dit pas comme ça, mais on comprend quand on voit la lettre qu'il veut se rendre et qu'il envoie une lettre avant pour expliquer toute sa doctrine, tout son enseignement pour que les Romains, quand ils arrivent, ils soient au courant de tout ce qu'il fait pour avoir une bonne communion avec eux et s'il y avait des soucis ou des problèmes, pour que tout soit bien clair avant qu'il arrive, en quelque sorte. Pour préparer sa venue, quoiqu'il ne sait pas ni quand ni comment il va leur rendre visite, mais c'est un projet qu'il fait. Et donc, il écrit cette lettre aux Romains, qui est une magnifique lettre, qui est très utile maintenant, parce que en quelques pages, Paul va faire un résumé de toute la doctrine chrétienne. Et ce problème de viande sacrifiée aux idoles est d'actualité aussi à ce moment-là. Donc, il en reparle. À ces Romains dans des termes différents, mais ils donnent toujours le même enseignement. Il y avait le problème donc, comment je fais avec ces histoires de viande sacrifiée aux idoles? Est-ce que je peux aller en manger? Parce que c'est quand même de la viande, de la nourriture dont on a besoin pour ses forces. Est-ce que je ne dois pas l'en prendre? C'était une difficulté. Il y avait aussi dans l'église chrétienne, il y avait beaucoup de personnes qui arrivaient. Et il y avait des personnes qui venaient de tout horizon, et chacun venait avec ses traditions, avec son arrière-plan, avec ses connaissances plus ou moins importantes de la parole de Dieu de l'Ancien Testament. Il y en avait qui étaient des juifs d'origine, d'autres qui étaient d'anciens idolâtres d'origine. Alors comment arriver à s'entendre les uns les autres, hein? Comment l'Église doit faire avec ces personnes et qui viennent avec un arrière-plan complètement différent du mien? C'était un problème également qui se posait et l'apôtre Paul donne un enseignement. Et c'est ce qu'on voit maintenant en Romains au chapitre 15, on va lire les versets 1 à 7. Romains 15, 1 à 7. Alors, on va lire dans deux traductions différentes. On va lire dans la seconde. Bon, je vais lire dans la seconde. Et si quelqu'un a la version semeur, ben je l'inviterai de lire ces versets en suivant ensuite dans la version de la Bible semeur. Alors, Romains 15, versets 1 à 7. Romains 15, 1 à 7. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit à l'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ah, qui veut lire Ouais, voilà.
Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Alors, moi dans mon texte que j'ai ici, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? Qui a entendu parler des jeux qui se passaient dans les arènes à Rome? Comment ça se passait avec les gladiateurs? On mettait des gens, il y avait tous les spectateurs qui étaient autour, on mettait deux personnes là qui arrivaient, ou plusieurs, je ne sais pas exactement comment ça se passait. On avait ces gladiateurs qui étaient là, et qu'est-ce qu'ils se faisaient ces gladiateurs? Qu'est-ce qu'ils devaient faire?
Se battre.
Se battre. Et l'objectif c'était quoi?
Tuer l'autre.
Tuer l'autre.
Pour gagner une épée de bois.
Je ne sais pas, on n'était pas au courant de l'épée de bois, mais l'objectif, c'était bien de se battre. Et on avait ces gladiateurs qui se battaient, et à la fin, il y en avait un qui était prêt, qui avait pris le dessus sur l'autre, là, par exemple, il le tenait au bout de son épée, et puis il regardait l'organisateur des jeux, et puis l'organisateur des jeux regardait toute la foule, et qu'est-ce qu'on devait faire de celui-là, hein? Alors, la foule avait le choix. Si elle trouvait celui qui était dessous sympathique, elle disait, oh, il faut lui faire grâce, il levait le pouce comme ça. Ou alors, comme ça, celui-là, il n'était pas vraiment intéressant. Et alors, soit c'était ça, et soit la personne était mise à mort, soit on pouvait lui faire grâce. Hein? Clou, voilà, bien fait pour lui. Hein? Il n'était pas beau celui-là. C'était une sorte pour tous ces... excusez-moi de prendre la comparaison, mais c'était un petit peu comme... vous connaissez maintenant la télé-réalité. Pour ces gens-là, c'était la télé-réalité, je pense, de l'époque. Ils avaient un combat en live. Ils étaient là, ils voyaient les choses comme s'ils étaient sur un champ de bataille, hein, de proche. Une sorte de télé-réalité. Et puis c'était comme du vrai. Et nous aussi, aujourd'hui, nous avons notre télé-réalité à nous. Nos jeux d'arène un petit peu à nous aussi, hein. C'est différent bien sûr, on ne tue pas les personnes à la fin grâce à Dieu, mais le but c'est bien d'avoir le dessus sur l'autre, hein. Il y a la série qui connaît l'île de Pocahontas, comment ça s'appelle? Koh-Lanta. Koh-Lanta. Le but, c'est qu'il n'en reste qu'un à la fin. Et puis, il y a d'autres, beaucoup d'autres émissions comme ça. Hein. Ça redémarre avec The Voice. Ou la Sarac. Alors, il faut éliminer les faibles. Le but, les faibles, là, il faut que ça parte. Alors, on propose, voilà, de ces deux-là, qui c'est qui, on ne cherche pas qui c'est qui est le meilleur, on cherche qui c'est qui est le plus faible, qui c'est qui doit être éliminé. Et ces deux-là, alors les téléspectateurs votent, oh non, plutôt celui-là, l'autre, il n'a qu'à partir. Et on regarde, et puis, des fois, c'est les téléspectateurs qui décident de celui qui va être éliminé. Et enfin, bien sûr, il faut qu'il en reste qu'un. Et le but, c'est pas ce qu'il est écrit ici. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Le message qui passe, les faibles, ils doivent partir, ils doivent sortir du jeu. Alors, dans l'Église de Jésus-Christ, vous avez compris que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas le fort qui s'impose par rapport au faible. C'est pas celui qui est faible, qui va faire toutes les corvées, qui va être le paillasson de tout le monde, comme ça se passe des fois dans la vie. Hein. On peut vivre ça dans son travail, on peut vivre ça dans son école. Hein. Junior avait un camarade qui nous a dit hier, je l'ai revu, il avait quitté le lycée. Le collège, il a été dans un autre collège, ses parents l'ont mis dans un autre collège parce que dans le collège où il était, tout le monde se moquait de ses chaussures. Et chaque jour, on se moquait de ses chaussures. Et c'était tellement difficile à supporter pour lui qu'il a été obligé de partir. Hein? On vit des choses assez dures comme ça, alors quand on est parmi ceux qui sont les forts, pour faire partir le faible, ça va. On est bien confortable, mais quand on est dans la place de celui qui est faible, et quand les autres veulent nous éliminer, hein, le maillon faible, on veut s'en débarrasser, c'est difficile. Mais dans l'Église de Jésus, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Alors, qui est le fort, qui est le faible? Ben, ici, dans la pensée de l'apôtre Paul, vous avez vu, il encourage les forts à ne pas faire ce qui leur plaise, mais à aider ceux qui sont faibles en vue de l'édification, en vue de les faire grandir. Le but des faibles, ce n'est pas qu'ils restent toujours faibles. Le but des faibles, c'est qu'ils grandissent, hein, qu'ils grandissent et qu'ils progressent. Hein, et les forts les aident dans ce sens-là. Nous ne naissons pas forts, ni nous ne naissons pas faibles dans le Seigneur. À un moment de nous, nous avons tous des moments où nous sommes faibles et où nous avons besoin d'être aidés, supportés par l'ensemble de notre famille, par nos frères et nos sœurs. Et c'est souvent comme ça que ça se passe dans les familles. Les familles qui fonctionnent bien, eh bien on a la solidarité qui s'exerce et quand quelqu'un est faible, il va être encouragé, aidé, par les autres, pour progresser. Hein. Le but, c'est bien de progresser. Et si quelqu'un voit quelqu'un qui lui semble fort dans l'Église, sachez demander à cette personne, approchez-vous de lui et demandez-lui, ben, est-ce que tu as toujours été comme ça? Et il vous répondra peut-être, si vous me posez la question, c'est ce que je vous répondrai, au moins avant, j'étais quelqu'un infiniment faible, très 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 faible. Mais le Seigneur m'a fortifié. Et cela donne de l'espérance à chacun d'entre nous, dans nos difficultés, dans nos faiblesses. On peut se sentir très pauvre spirituellement par rapport aux autres qui semblent avoir tellement de connaissances. Mais on démarre tous et on en passe tous par là. Et ce que soit un encouragement et une incitation à grandir dans le Seigneur, parce que Dieu veut que nous grandissions. Dieu veut que nous grandissions. Et nous avons le modèle du Seigneur. Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Les insultes de ceux qui t'outragent sont tombées sur moi. C'est difficile d'être faible. C'est difficile aussi, dans ce passage-là, d'être fort, de passer en dessous. Quand quelqu'un est faible, il va tomber comme ça, ben, il faut passer en dessous pour le supporter, passer en dessous de lui. Et c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et celui qui est bien portant dans ce contexte-là, celui qui savait ce que c'était une idole, qu'il savait que de toute façon cette viande-là, l'idole n'existait pas, c'était la viande qui était comme toutes les autres viandes, qui pouvait en consommer, l'apôtre Paul lui dit, écoute, cette viande-là, qui pour l'idole, il vaut, si quelqu'un à côté te voit manger et qu'il se mette lui aussi à revenir vers les cultes des idoles, c'est pas bien, tu donneras pas un bon témoignage, il vaut mieux que tu te prives de viande. Et il dit, privez-vous de viande plutôt que de faire chuter un de ceux qui sont faibles. Et c'est une souffrance à bien des égards d'être fort pour supporter les faibles. C'est quelque chose qui n'est pas facile, qui n'est pas facile. Alors qu'on a tout ce qu'il nous faut, alors qu'on a une bonne connaissance, alors qu'on pourrait jouir pleinement de notre communion, notre relation avec Dieu, on va être obligé des fois de faire des choses qui sont douloureuses, nous abaisser, partager les fardeaux de ceux qui ne les sont pas. C'est ça qu'on appelle la compassion. Partager les souffrances, accepter d'entendre les problèmes de ceux qui ont des problèmes pour les aider, les encourager. Il faut les écouter et il faut se charger et partager cette souffrance avec eux, alors que on n'a pas besoin de ça. Et il faut du courage. Et quand on est faible, c'est aussi du courage parce que on est toujours c'est difficile des fois de on voit quelque chose dont on aurait envie, mais de se soulever pour aller, pour grandir, pour se bouger, pour faire des progrès, cela demande des efforts. Cela demande des efforts. Le petit enfant, quand il apprend à marcher, on lui tient la main comme ça, et puis un moment, ben, la maman, allez, maintenant débrouille-toi, essaye de faire tout seul. Hein, et le petit enfant, il hésite, il a envie, mais des fois il va tellement de fois retomber, mais il faut qu'il se fortifie, qu'il prenne confiance en lui-même. C'est difficile pour le faible, c'est difficile pour le fort, c'est difficile pour tout le monde. Et on voit dans les versets suivants, là, je voulais faire un cours, c'est raté, le secours de la parole de Dieu, rapidement. On a vu ici ce qui a été décrit d'avance, ça a été pour votre instruction, la patience et la consolation que donnent les Écritures. La patience, c'est la constance, c'est l'endurance, et la consolation, c'est le mot paraklesis en grec qui veut dire prendre auprès de soi, littéralement. C'est prendre auprès de soi. Et quand on lit la Bible, quand on lit la parole de Dieu, Dieu veut nous prendre auprès de lui. Veut nous prendre auprès de lui. Et quand on prend quelqu'un auprès de lui, on va le consoler, on va l'encourager, on va l'exhorter, lui dire bouge-toi, ou suivant ce dont il a besoin. Et c'est tout le sens de ce mot ici, dans ce passage-là, que le Dieu de la persévérance, de la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. À travers de la parole de Dieu, va faire ce travail que l'on ne peut pas faire, nous encourager, nous donner les ressources de la parole de Dieu, les ressources même de Dieu, pour nous permettre de vivre ce qu'il est écrit après, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Avoir les mêmes sentiments. Alors, est-ce que c'est quelque chose dont on a envie? La question qui se pose. Est-ce qu'on a envie, quand on est ici ensemble, dans le sein de l'Église, est-ce qu'on a envie d'être une famille vraiment unie, vraiment soudée, vraiment accueillante pour ceux qui arrivent? Parce que c'est curieux, il y a les bébés, dans les familles naturelles humaines, il y a les bébés qui arrivent, mais dans la famille de Dieu, il n'y a plus que des bébés qui arrivent, il y a des grands, il y a des très grands, il y a des personnes âgées même qui arrivent et qui vont se joindre, et il va falloir ces personnes-là les intégrer dans la famille, leur faire leur place, une place à part entière. Et est-ce qu'on souhaite, est-ce qu'on a envie vraiment de vivre ce que Dieu a prévu pour nous, dans l'Église? Alors c'est un défi qui se pose à chacun d'entre nous. Et le verset 7, je termine avec ça. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Alors, si on a été accueilli par le Seigneur, il dit-il aux forts ici, je pense qu'il s'appelle, s'adresse surtout aux forts. Et des fois on se croit fort et on est faible, des fois on se croit faible. Finalement, pardon, dans le Seigneur on est plus fort que ce qu'il n'y paraît. Accueillez-vous, accueillons-nous les uns les autres. Alors, dans chaque exhortation, consolation, encouragement de la parole de Dieu, il y a une partie de mise en pratique. Comment on va appliquer tout cela? Eh bien, on va l'appliquer maintenant. On va prendre un moment qui fait partie du culte où on va pouvoir avoir ce moment de convivialité ensemble. Accueillons-nous les uns les autres pour la gloire de Dieu.